Nouvelle-Calédonie, Kanaky, après le référendum, avant le référendum, où en est la marche vers l'indépendance. Deuxième partie. Un an après un premier référendum d'autodétermination, au résultat bien plus serré qu'annoncé, et un an avant un second référendum, nous donnons la parole à une femme et quatre hommes engagés pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce territoire du Pacifique Sud, aujourd'hui encore possession française. Dans ce deuxième volet, sur trois de notre émission, il sera notamment question de la jeunesse de l'archipel et d'économie de comptoir.
On est bien placé au centre culturel Chibaou. On est sur une presqu'île qui s'appelle Tina-sur-Mer, dans la périphérie de Nouméa. Et d'un côté, quand on se tourne là où on est, là-bas en face, il y a une petite colline où il y a, je sais pas, peut-être 400 personnes qui habitent dans des squats. Puis quand on tourne son regard à gauche, on a un quartier des plus. Les gens qui ont le plus de revenus de Nouméa, ils sont basés ici. Tu y accèdes avec un portique, quoi. Et puis, il y a un code d'accès. C'est un peu Beverly Hills, chez nous.
Emmanuel Chibaou, directeur de l'Agence de développement de la culture Kanak.
Et je dis que c'est symptomatique d'une partie, d'une frange de la population qui ne refuse pas le développement, mais qui l'appréhende avec la casse que ça comporte.
Quand on regarde concrètement la situation en Calédonie, dire ceux qui se sont enrichis, ce n'est pas les Kanaks qui se sont enrichis des accords de Matignon et de Nouméa. Ce n'est pas les Kanaks qui se sont enrichis des transferts de compétences. C'est les Blancs qui se sont enrichis.
John Passa, sociologue.
Dire c'est les Blancs qui ont profité de la défiscalisation. Ce n'est pas les Kanaks. On regarde toujours ça avec une frange de la population Kanak qui a accédé à des postes de cadre, qui a accédé à une espèce de classe moyenne calédonienne. Mais ça, c'est une frange infime. Dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Les langues Kanak ne sont toujours pas enseignées à l'école. Ou quand c'est enseigné, c'est de manière périphérique ou marginale. Il y a toujours une espèce de non-reconnaissance au nom du vivre ensemble, pour que les gens continuent à se partager une richesse ici en Calédonie. C'est-à-dire, à partir de là, la question de la dignité des personnes, on les met de côté au nom d'une espèce d'égalité qu'il faudra avoir entre les citoyens calédoniens. On n'en est pas là. La situation sociale ou socio-économique des Kanaks n'a pas changé. Le jour où on verra des Kanaks qui sont à la tête des grandes entreprises, qui ne sont pas des entreprises Kanaks, du secteur privé calédonien, les Kanaks qu'on verra à la tête de ces entreprises-là, on pourra dire qu'il y a eu une avancée. Parce que pour le moment, les Kanaks font leur carrière dans la fonction publique. Ils ne font pas les carrières dans la fonction privée. Dans le privé. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Dire, c'est comment on permet aux Kanaks d'intégrer le secteur privé, pas le secteur minier, parce que là, on a des Kanaks qui vont être dans la mine, mais qui sont dans la mine dans des projets de pays, dans des projets où c'est des fonds publics qui vont créer, qui vont donner naissance à des entreprises comme l'usine du Nord. Mais même au-delà de ça, on a très peu de cadres. Dans les cadres intermédiaires, effectivement, on va avoir beaucoup de Kanaks, beaucoup de Calédoniens, mais au-delà, on n'en a pas. Donc la réalité sociale du monde Kanak, elle n'a pas changé.
En Calédonie, il y a ce qu'on appelle l'emploi local, où les citoyens de ce pays sont prioritaires sur certains. Quand je dis citoyens de ce pays, c'est les citoyens calédoniens qui sont prioritaires par rapport à des citoyens français, mais qui viennent d'arriver, sur certains emplois.
Samuel Gorouna, économiste.
Et tout le monde sait en Calédonie que ce principe-là n'est évidemment pas respecté. C'est dans les accords de Nouméa où il y a une loi sur l'emploi local en Calédonie. Ça, c'est dans les accords. Ce n'est pas respecté par forcément par le secteur privé. Il y a beaucoup de gens qui voient autour d'eux des gens qui arrivent et qui ont des emplois, même serveurs dans un restaurant, etc., etc., et que du coup se sentent exclus. Même s'ils ont fait des études, même si, voilà, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup le buzz en Calédonie, c'est-à-dire des Calédoniens qui ont les diplômes et on prend des métros, des métropolitains sur certains postes. Je pense que cet aspect social a joué parmi la jeunesse, parmi les jeunes, parce que, encore une fois, parmi le taux de chômage, là où on a le plus fort taux de chômage, ce sont les jeunes.
Il y a tout un ensemble de systèmes qui met l'emploi local en difficulté et qui met les enfants d'ici en difficulté et qui renforce la frustration et qui renforce la rancœur entre les populations. Je veux dire, et de plus en plus, une petite partie de la population calédonienne, non kanak, se rend compte qu'ils sont aussi de plus en plus écartés au profit des métropolitains. Donc il y a aussi cette réalité-là. Et forcément, quand ils arrivent de France, ils sont dans la France. Comme disait un sociologue belge, en Europe, on assiste à des déclassements, des populations de déclassement. C'est-à-dire qu'avec des bacs plus 4, on fait le boulot d'un simple bachelier, parce qu'il n'y a plus de boulot. Et ici, dans ces déclassés-là, ils vont où? Ils viennent ici. Et le problème, c'est quand ils arrivent ici, on les surclasse. Ça ne peut pas marcher. Les déclassés deviennent des surclassés ici. Alors qu'il faut qu'on arrête. Mais l'emploi local, c'était fait pour avoir une cohésion sociale. Mais c'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des mesures courageuses et que les gens acceptent, que les politiques calédoniennes dans son ensemble acceptent d'en débattre et de mettre des choses en place avec des dispositifs de régulation, de contrôle. Et pas qu'on fasse des choses et puis on ne contrôle pas, ça ne sert à rien.
Évidemment, il y a un aspect d'éducation d'abord. Moi, je dis souvent de façon un peu abrupte pour faire comprendre ici en Calédonie. Si vous avez un groupe où vous avez tout le monde est bac plus 5 de l'autre côté et tout le monde est sans diplôme, forcément, le groupe où tout le monde est bac plus 5, ils ont tous des emplois et puis les autres, ils galèrent. Ce qui est normal. Donc, du coup, il y a d'abord un processus sur l'éducation. Est-ce qu'on arrive à faire est-ce que l'école calédonienne arrive à casser la reproduction sociale, etc. etc. Bon, la réponse, elle est comme dans d'autres pays, évidemment. La réponse est plutôt non. Quand on regarde les chiffres, on a fait beaucoup de progrès dans l'éducation. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait de progrès. Et l'État, d'ailleurs, a beaucoup investi dans les écoles primaires, parce que de toute façon, avant, c'était les missionnaires qui faisaient l'éducation chez les Kanaks. Donc, il y a eu les écoles primaires, les collèges, les lycées qui ont été construits par l'État, l'université qui s'est développée. Sauf qu'évidemment, le retard qui est accumulé, quand tout le monde le sait, partout dans le monde, quand vous êtes enfant d'ouvrier, ben, vous avez plus de chances d'être ouvrier que quand vous êtes enfant de cadre. Évidemment, vous avez plus de chances d'être cadre vous-même. Et donc, en Calédonie, en 89, donc pour signature de l'accord de Matignon, il y a moins de 1% de la population kanak qui est diplômée de l'enseignement supérieur. Les non-kanak sont à 6% en 89. Donc après toutes les politiques de rééquilibrage, donc quasiment 30 ans plus tard, en 2014, les Kanaks sont à 5%, donc on a évidemment fait des progrès, sauf que les non-Kanaks, de l'autre côté, sont à 28%. Et je le dis parfois de façon un peu abrupte, c'est qu'en 30 ans de rééquilibrage, les Kanaks ont réussi à atteindre le niveau qu'avaient les non-Kanaks il y a 30 ans.
Il y a un mal-être, parce que les richesses sont très mal réparties.
Aloysio Sacco, élu indépendantiste.
Parce que le système scolaire, il n'est pas adapté. Nous avons 1400 enfants qui sortent chaque année du circuit scolaire sans diplôme. Et où est-ce qu'on les retrouve? Où est-ce qu'on les retrouve, ces jeunes? Et ça fait des années. Ben, pour une part, au Congrès, en prison. 90% des prisonniers sans diplôme, d'origine kanak.
Tous les mois, j'interviens là-bas au quartier des mineurs, au Kanak. Parce que la prison de Nouméa, qui est située à une dizaine de kilomètres dans la ville de Nouméa, sur la presqu'île de Nouville. Au quartier des mineurs, voilà, il y a 98% des jeunes qui sont des kanaks. Et puis, j'interviens là-bas au titre du Centre culturel Chibaou pour parler avec eux de l'identité kanak, la place qu'ils occupent dans la coutume. On travaille sur ces notions d'identité, de bonjour, de se respecter, de partager, de savoir qui ils sont, de leur redonner une place. Et quand je dis 98%, c'est des Kanaks, mais sur l'ensemble du camp Est, c'est le nom de cette prison, il y a 95%, c'est le seul endroit où les Kanaks sont majoritaires, c'est là. C'est pas dans la représentation, dans les bureaux de vote. Hein.
C'est toujours le problème des colonisés, c'est-à-dire que s'ils sont minoritaires dans leur pays, ils sont majoritaires dans leur prison. Ça fonctionne comme ça. Mais c'est la non-reconnaissance, c'est-à-dire c'est les effets de la non-reconnaissance. C'est-à-dire que par du moment où on veut continuer à donner à ce pays une image qui est une image artificielle, avec un regard qui est dans la négation permanente des enfants d'ici, c'est-à-dire, au bout d'un moment, le système il finira toujours par le payer. C'est-à-dire, il va toujours finir par le payer par effectivement l'explosion de la délinquance, qui est une délinquance qui ne va plus concerner uniquement les Européens, qui va aussi, comme victime, hein, qui va aussi concerner les Kanaks. C'est-à-dire que la délinquance, si on parle de la jeunesse Kanak, elle est sur deux niveaux de lecture. C'est à la fois dans le statut d'exclu d'un système, j'allais dire actuel, colonial ou post-colonial, mais je pense plutôt colonial, de la Calédonie, et puis d'un système Kanak qui est aussi de plus en plus exigeant vis-à-vis de ses propres enfants. Donc, à partir de là, le phénomène il va produire des délinquants doublement exclus. Exclus à la fois du système européen, calédonien, européen, et puis du système canadien. Par le statut des personnes, par le statut des jeunes, par leur incapacité à avoir une place en tribu et tout ça. Donc on va avoir une convergence dans l'exclusion. Et qui va en faire des enfants qui n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien. Si on a le critère européen, ben, ils n'ont rien. Et puis chez eux, ils n'ont pas la place. Ils n'ont pas leur place. Donc, où est-ce que vous voulez qu'ils s'installent ? Ben, dans la marge. Dans la marge des deux sociétés. Avec toutes les modalités qui concernent cette marge-là. À la fois des violences, mais aussi des attitudes. Suicidaires pour certains ou certaines. Donc oui, la jeunesse kanak, elle est mal en point, en tout cas une partie du moins, mais la réponse, elle est double. Elle est à la fois dans la société calédonienne globale et puis dans la société kanak. Comment la société kanak arrive à régler certaines contradictions propres à sa culture, mais que les autres en face ne s'en servent pas pour régler leur incohérence à eux. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que souvent, ils préfèrent ne pas parler d'eux, mais pour parler des Kanaks. Ils sont dans la capacité de gérer leurs propres enfants. Donc, il faut que chacun récupère sa part de responsabilité dans tout ça.
Voilà, beaucoup d'élus politiques, de responsables, mais aussi, je pense que c'est une vision qu'on avait un peu tous, je pense, de façon générale, sur le fait que les jeunes sont beaucoup moins, sont beaucoup moins concernés parce qu'ils n'ont pas vécu les événements, parce que, etc., beaucoup moins concernés par la chose politique, la question d'indépendance ou pas, etc., etc. Et les élections, et ce référendum a fait mentir, effectivement, les propos qu'on avait sur le sujet. Alors, pourquoi ça, c'est plus compliqué à l'expliquer. Moi, je n'aurais pas d'explication. Hein, Par contre, une chose est sûre, c'est que les inégalités, elles persistent. Et ceux qui sont le plus touchés par le chômage, c'est les jeunes. Et je pense que la question sociale a mobilisé aussi les uns et les autres. C'est-à-dire que dans le discours des indépendantistes, il y avait aussi la question sociale. C'est-à-dire, grosso modo, l'indépendance, c'est aussi un pays plus juste. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que certains qui en profitent. Et parmi le taux de chômage, là où on a le plus fort taux de chômage, ce sont les jeunes.
On ne s'y attendait pas parce qu'on a une jeunesse qui, justement, mais comme peut-être partout un peu ailleurs, n'est pas forcément là lors des élections.
Nadège Vakenta-Lefèvre, élue indépendantiste.
On a le sentiment, et ça a été dit par beaucoup de personnes, qu'ils ne se sentaient pas concernés par la chose, que ça ne les intéressait pas. Eh bien non, Voilà, on a eu la preuve du contraire. Donc, moi, je suis ravie de cette mobilisation-là, parce qu'il reste évident que dans ce pays en construction, c'est elle qui va porter hein, les projets, le chemin que l'on trace, etc. Et elle est intéressée par ce qui se passe dans le pays. Et elle a voulu le montrer en allant massivement au vote. Et je crois qu'il y a une jeunesse kanak, notamment, et Caldoche aussi, qui s'est interrogée, qui s'est intéressée, alors qu'on s'y attendait pas, parce qu'on les a, dans le débat et dans la campagne électorale, qui a été rapide, hein, néanmoins, pour le référendum, si, ils se sont venus, ils sont venus quand même sur les plateaux, ils ont dit, mais pas plus que ça. Et ça, ça a été une grosse surprise, mais une très belle surprise, qui laisse augurer, pour le coup, quelque chose de très positif pour notre avenir dans ce pays.
Moi, je dis parce que je travaille avec eux. Donc, je sais que c'est il y a quelque chose qu'on peut pas leur ôter. C'est cette dimension d'être d'ici. Et leur c'est leur dernière carte quoi. Le jour où ils ne pourront plus dire qu'ils sont kanak ou qu'ils sont d'ici, ils vont dire quoi? Ils seront réduits à néant, quoi. Leur identité, ce sera un magma difforme. Alors peut-être il faut passer par là, je sais pas. Moi, j'ai pas de solution là-dessus, mais en tout cas, sur la mobilisation de la jeunesse, moi, j'étais complètement convaincu que les jeunes, ils allaient se mobiliser, parce que c'est comment on va dire ça, c'était leur jour, quoi. Il y a tous les autres jours, on ne leur donne pas la parole. Tous les autres jours, on ne les écoute pas. Tous les autres jours, on les stigmatise. Mais chez nous, dans notre manière de concevoir la construction de la société, c'est la force d'une société, c'est ses jeunes. C'est ses jeunes. Il faut avoir confiance dans sa jeunesse. Moi, je pense que c'est là notre plus grande... Notre vraie puissance, elle est là. Elle est dans cette capacité de régénérer les concepts, de s'émanciper des modèles. Si notre jeunesse, elle est capable de s'émanciper des modèles de domination, elle est capable de formuler de nouveaux concepts qui correspondent à leurs aspirations. Parce que si on se bat pour la société qui était celle de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la notion même de culture.
Je crois que le vote jeune, c'est plus, c'est effectivement le vote pays. C'est-à-dire que pour eux, habiter un pays, ça a plus de sens que de mettre des gens à la tête de ce pays. Donc, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là de dire, moi, c'est le pays, comme disent toujours les jeunes ici, quand ils en ont marre de devoir dialoguer avec des gens qui ne veulent pas entendre, ils disent mais ici c'est chez nous. Donc pour cette simple raison-là, ici c'est chez moi, donc je ferai en sorte que ce soit chez moi réellement. Et être chez moi réellement passe par un vote, passe par le oui. Oui, j'ai envie d'être chez moi. Le personnage politique s'efface au profit de ce symbole pays. Et ça, les jeunes, ils le diront. Les jeunes, ils sont pas très chauds à voter pour des personnes qui sont là depuis 30 ans et qui n'ont pas fait le boulot. Et ça, il y a une espèce de une déception et une colère vis-à-vis de cette classe politique-là, oui, kanak, qui ne sait pas, qui n'a pas révolutionné sa manière de faire de la politique, qui a régressé, si on prend comme référence des gens comme Tshibau, parce que c'est la référence en matière politique, quand on prend des orientations de Tshibau, la classe, les successeurs de Tshibau ne sont pas à la hauteur du défi. L'accord de Nouméa est assez clair dans sa construction, dans sa conception. L'accord de Nouméa, elle amène ce pays vers une souveraineté vers l'indépendance. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les politiques indépendantistes n'ont pas été à la hauteur de ce défi-là, de défendre l'accord de Nouméa, parce qu'il fallait défendre l'accord de Nouméa. Mais personne n'a défendu l'accord de Nouméa. Les indépendantistes, encore moins, alors que c'était à eux de défendre mot par mot, point par point, chapitre par chapitre, toute l'élaboration de l'accord de Nouméa pour garder à l'esprit qu'au bout du bout, on a tout récupéré et nous sommes à la hauteur des défis dans la gestion d'un pays, dans la gestion des diversités, dans la gestion des pluralités, de garantir tout ça. Les indépendantistes, en tout cas les Kanaks, le mouvement indépendantiste, les hommes qui sont à la tête de ça, il y a personne n'a été à la hauteur de ce défi-là. Donc on comprend la frustration d'une jeunesse qui est lasse de supporter, de revoir les mêmes têtes, leur dire les mêmes choses, leur raconter les mêmes histoires, pour au bout du bout continuer à être des mendiants. C'est être des mendiants de la France, être des mendiants de ceci, à quémander sans arrêt, parce que rien n'a été fait pour que les gens puissent relever la tête et assumer et être dignes. Ça, c'est la grande difficulté dans laquelle on se retrouve. On a une classe politique canin qui n'a pas fait les choses. Pour moi, une classe politique qui a été défaillante.
Moi, je suis le fils de Jean-Marie Tchibao. Moi, les paroles qu'il a dit dans les médias et à la maison, moi, j'ai retenu. Les paroles que Machoro, il a dit dans les médias et à la maison, moi, j'ai retenu. Il paraît que... Yewene. C'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui, mais je pense que le manque, il est pas tant sur les bonhommes, il est plutôt sur la manière dont on pense le discours et on le met en pratique. Parce que on peut dire ce qu'on veut, hein, mais ces types-là, quand je dis que c'était nos super-héros, nos modèles, c'est que je peux dire que je sais c'est quoi quand je les voyais faire, je peux dire je crois en l'indépendance. Il y a une différence avec ceux qui sont arrivés après. La différence, elle est sur le fait de produire une vision, de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique, et puis après d'être simplement ceux qui ressortent le discours, mais on voit pas tout l'enchaînement logique qui va décliner la vision en projet politique, en projet économique, en projet de vie à la tribu, de quelle manière je forme les jeunes, de quelle manière je les encourage, je stimule leur intérêt pour ce projet d'indépendance. C'est surtout ça la différence que moi je ferais, hein, si j'avais une analyse à apporter là-dessus, ce serait celle-là. Ce serait la différence que j'ai vue, c'est d'être juste des porteurs de discours, mais ne pas lier la parole avec le verbe, avec le geste, le dire avec le faire. Moi, le truc que le vieux nous disait, c'est ça. De pays, de point. Ça veut dire tu dis et tu fais. Si tu veux que ta parole elle soit viable, si tu veux que ta parole elle s'enracine dans le pays, mais il faut lui donner un corps, il faut lui donner un esprit, il faut lui donner des racines. Après, la difficulté peut-être, c'est aussi que quand eux, ils partent, papa tout ça avec Yewene, il meurt en 89, ils partent au moment où on leur remet, entre guillemets, les clés du développement. Et pour moi, le seul qui a réussi vraiment à marquer l'essai sur ce domaine-là, c'est Nautin, Paul Nautin, qui était en capacité de décliner une vision politique articulée en projet économique. De quelle manière ça sert les aspirations de la tribu? De quelle manière les jeunes ils peuvent se projeter dedans?
Jean-Marie Tchibaou, Yewene Yewene, Éloi Machoro, ces noms qu'a cités tout à l'heure Emmanuel Tchibaou sont ceux des trois personnalités les plus importantes de la lutte indépendantiste kanak dans les années 80. Paul Niaoutine, lui, est le président de la province Nord depuis plus de 20 ans. Il a été réélu en mai dernier. Mais revenons aux questions économiques avec Aloisio Sacco.
Il faut qu'on arrive à gommer cette économie de comptoir. Mais regardez les terres. Il y a trois vaches dans les plaines quand vous montez. On importe de la viande. Regardez au niveau des produits vivriers. On importe des légumes d'Australie, de Nouvelle-Zélande. alors qu'on a des terrains en friche. On a délaissé tout ça pour, parce qu'on a axé nos activités dans la mine. Et les autres secteurs productifs eh bien, ont été délaissés. Et aujourd'hui, on voit bien, dans la vie des Calédoniens, eh bien, c'est devenu insupportable, cette vie chère. Parce qu'il n'y a rien qui n'a été fait pour la production locale. Ceux-là même qui détiennent les comptoirs, les hypermarchés, ce sont ceux-là même qui détiennent le foncier. Ben oui, c'est plus facile d'importer et de le revendre que de développer. Alors ça, à l'indépendance, on n'en veut plus. On veut qu'on soit de plus en plus autonome sur le plan alimentaire. Vous comprenez ? Quant aux richesses, il faut la mieux répartir. Ce n'est pas simplement que 10% des Calédoniens, des familles, qui détiennent à elles seules près de 60% des richesses. Ce n'est pas possible. Les restes vont se partager les miettes. Mais là, on prépare quoi ? Une explosion sociale. Qui va souffrir de ça ?
Quand on ouvre nos frigos, les yaourts que l'on mange, ils viennent de Villeurbanne. Quand on boit du lait, on se rend compte que le lait il vient de Belgique. C'est bien le signe qu'à un moment donné, les mécanismes de pouvoir s'articulent autour du développement économique. Et que là, non seulement en termes de gestion, parce que tous les produits d'import viennent d'Europe, alors qu'on est dans le Pacifique, ça fait que, voilà quoi, ils font trois fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Mais que aussi, en termes de redistribution du capital, ce qui est la ressource première de la Calédonie en dehors des hommes, c'est le nickel. Et bon, 15% des ressources mondiales, avant que mon père il soit au pouvoir, juste un petit exemple, c'est 82. Il entre au gouvernement, il met en place l'impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire que pendant près de 100 ans où la SLN était ici, à exploiter le nickel, 15% des ressources mondiales, il y en avait certainement plus avant, mais pendant 100 ans, ils ont exploité sans verser de dividendes à la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que les retombées financières pour la Calédonie, elles étaient minimes, ni en termes de fiscalité, ni en termes de redistribution de la richesse. Ça veut dire aussi que la manière dont... C'est le libéralisme à son apogée, quoi.
L'idée à la base coloniale, c'était un comptoir. Donc on produit quasiment rien localement, on importe. Et puis les gens qui sont sur place consomment que des produits de la métropole d'origine ou... Voilà, et avec que quelques-uns qui détiennent les clés de l'économie, et puis les autres qui sont des indigènes et qui consomment. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, l'idée, c'était un peu ça. Il y avait un port où on pouvait exporter. Il y avait... C'était le nickel, qui était dirigé toujours par les mêmes. Et en plus, on ne prenait pas les locaux, mais on allait chercher ailleurs la main-d'œuvre, etc. Et il y a tous les petits mineurs aussi, dont la famille Lafleur, Pentecôte, etc., etc., qui ont fait fortune dans la mine et dans le commerce. Balland, c'est les deux également, mine et commerce. Et pendant très longtemps, effectivement, eux ont eu le pouvoir économique et le pouvoir politique. Bon, Lafleur, ça a été caricatural. Jacques Lafleur avait la SMSP à l'époque, avait la mine, donc, avait également le pouvoir politique. Et l'économie sur place était tenue par quelques familles. Aujourd'hui, c'est moins vrai, parce qu'il y a quand même des activités créées localement. Et le poids des familles, notamment enfin, comme ceux que j'ai cités un peu tout à l'heure, est de moins en moins fort. Pourquoi c'est moins en moins fort ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands groupes qui sont installés ces dernières années, qui sont installés sur le territoire. c'est pas mieux ou moins bien, ou voilà, c'est pas un jugement, c'est juste que ces familles-là ont peut-être moins de poids quand on prend les choses de façon générale, l'économie de façon générale. On n'a plus le vieux Lafleur, mais on a encore des collisions très fortes entre les familles. Les gens ne s'en cachent pas, hein, c'est une sorte de conflit d'intérêts. Il y a quelqu'un qui vient de démissionner à la mairie de Païta, un maire loyaliste, etc., qui vient de démissionner pour ce type d'affaires-là, mais il y a d'autres élus loyalistes qui ont eu ce type de qui ont passé dans les tribunaux aussi pour ce type d'affaires-là. C'est le soupçon de conflit d'intérêts, je dis soupçon parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait la preuve, il faut qu'il y ait la condamnation, etc. Bon, bref, ce soupçon de collusion est hyper forte entre le politique et l'économie et qu'au final, les intérêts des uns et des autres se sont défendus dans la construction des lois, dans l'administration même de la cité, effectivement, c'est quelque chose qui reste important aujourd'hui.
Les accords politiques, ils ont aussi ouvert la vanne à des flux financiers d'investissement qui ont permis à un certain nombre d'élus, peut-être aussi, de groupes d'entreprises, de bénéficier de cette manne qui a été voulue pour le rééquilibrage. Mais bon, ici, on est 270 000 habitants, on sait qui pilote les grandes sociétés, les leviers du pouvoir économique, ils sont là aussi. C'est le mode de société qui est pensé comme cela. Hein. Il faut que chacun tire son épingle du jeu. Nous, on a peut-être mal joué, peut-être qu'on n'a pas investi le champ économique parce que c'était trop compliqué, mais l'objectif de l'indépendance à la base, la reconnaissance de l'identité kanak, c'est d'appréhender un prisme par lequel, dans l'économie, dans le système occidental qui nous est imposé, on puisse trouver un modèle qui nous... Enfin, intégrer dans ce système des références qui font de nous, non plus des étrangers, mais une adéquation avec nos systèmes de valeurs, quoi, nos références.
Petit canac, ne fais pas attention à ceux qui te dénigrent. Tu t'en sortiras même s'ils veulent te pousser dans le vide. Tu es ici chez toi, même si certains pensent le contraire. Tu es ce que tu es, ton nom te rattache à ta terre. Je te le dis, sois fier de ton identité. Reste le même et affirme-toi en crachant la vérité. Prouve à tous que ce qu'ils font toi aussi, tu peux le faire. Et si ça les énerve, dis-toi que tu représentes pour tes frères. Ce putain de système veut ta perte, tu le sais. Issu d'un peuple colonisé, tu en seras toujours traumatisé. Mais cela, certains refuseront toujours de l'admettre. Excuse-moi vulgarité, mais qu'ils aillent tous se permettre. D'ailleurs, tu n'as pour maître que ton père et ta mère. La famille, c'est sacré, et c'est ton tout premier repère. Et si tu erres sans raison, ressaisis-toi de suite.
Avec Nadège Vakentaler-Fèvre, John Passa, Emmanuel Chibaou, Samuel Gorouna et Aloisio Sacco. Ces entretiens ont été enregistrés entre janvier et mars 2019. À suivre.
Fais de la chance, tu pourras y arriver. Petit canard, reste humble. Cela péter, ça sert à rien. Je te le dis, c'est ridicule. Et ça déshonore les tiens. Car rien ne vaut l'humilité qui caractérise les nôtres. Rien ne vaut nos vraies valeurs. Donc ne fais pas comme les autres. Respecte tes potes et frères des autres airs coutumières. Car dans le fond, ça sert à rien de toujours se faire la guerre. À qui cela profite? Pas à nous, dans tous les cas. J'écris Kanak, Unity. Petit canard, l'entends-tu pas? Petit canard, entends ma voix. Car j'entends tes cris. C'est à toi que je m'adresse. Car je m'inquiète pour ta vie. Alors, tends l'oreille. Ou donne-moi juste la main si je te parle ainsi. C'est que je pense à demain. Petit canard, entends ma voix. Car j'entends tes cris. Et si tu me dis Kanaki, je te dirai Unity. Petit canard, je suis comme toi. Juste un canard parmi tant d'autres. Retiens juste ça. Je me bats pour les autres. Alors surtout ne laisse jamais personne nous diviser. Car comme tu le sais, notre force viendra de notre unité. Je sais que tu feras l'effort d'agir comme il le faut. Afin de rester digne et d'honorer notre drapeau. Bats-toi pour nos idéaux sans commettre l'irréparable. N'oublie pas que tes actes seront jugés par tes semblables et par les autres aussi. Donc évite de te salir, réfléchis avant d'ouvrir et surtout avant d'agir. Écoute, car je te parle pour que tu comprennes que la vie est ce qu'on en fait et que tu en tiens les rênes. Qui sait d'où que tu viennes, je t'en prie, reste le même. Que tu évolues en tribu ou dans la jungle urbaine, les problèmes restent les mêmes. Car rien n'est facile, j'en place une au passage pour tous nos frères en exil de la grande terre aux îles. Mon message, je colporte au fur et à mesure. Ma parole devient forte, mais bon, libre à toi de faire ce que t'en veux. Moi je l'ouvre pour les nôtres, pour qu'un jour tout aille mieux, pour qu'un jour on s'en sorte et qu'un jour on soit fort. Et j'espère voir ça avant les jours de ma mort. Je suis venu péter le score, mais plus rien ne m'amuse. Et en pensant à nos leaders morts, leur système j'accuse. Mais ce qui est écrit, je ne fais que le dire. Faut qu'on aille de l'avant, donc prépare ton avenir. Petit canard, nous sommes pareils, malgré nos différences et malgré nos divergences. Faisons preuve d'intelligence.
Courte. Radio créative,
hors du commun.